Jusqu'à 20h sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Alors je vous dis tout, après 19h, on se tourne vers l'actualité de demain, et demain, c'est l'Ascension. On est à quelques jours en fait, hein, maintenant de la réouverture des lieux de culte. Je reçois Monseigneur Denis Jacquier, l'évêque auxiliaire du diocèse de Paris. À 19h30, vous le savez, on partage ensemble nos expériences de vie, télétravail, revenu universel. Télétravail, vous avez aimé, vous, vous continuez votre... Nos rapports au travail vont-ils changer? Vous prenez la parole au 3921, hashtag Europe 1. On regarde vers demain, on écoute le monde changer et ça se passe sur Europe 1.
Et votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
C'est ça où il faut rester sur la plage avec les enfants à courir toute la journée. Donc on prend ce qu'on nous donne et je trouve que c'est déjà pas mal.
Mieux que rien, la formule inédite mise en place par la commune de la Grande Motte dans l'Hérault. Ceux qui veulent profiter de la plage doivent désormais réserver leur emplacement et même leurs horaires.
Et sur les routes, les policiers et les gendarmes veillent ce soir avant le long week-end du pont de l'Ascension. Ils seront inflexibles sur les 100 km.
Quand organiser le second tour des municipales? Édouard Philippe reçoit ce soir, en ce moment, les chefs de parti alors que le conseil scientifique a rendu un avis prudent sur le sujet.
Dans le Nord, un millier de policiers testés depuis aujourd'hui même après la découverte de nouveaux cas de contamination.
Dans ce journal de 19h, vous le savez, on se projette sur demain. Demain en France, avec un casse-tête pour les commerçants. Comment écouler les stocks après 2 mois de confinement? Solde ou pas solde?
Et puis demain dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 17% sur l'ensemble de la planète pendant le confinement. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite pour autant. Et puis du côté du ciel, justement, Anissa, un peu plus nuageux demain?
Oui, légèrement, ce sont des nuages d'altitude, un voile léger qui arrive par l'ouest demain, des cumulus toujours qui se forment sur les reliefs, mais dans l'ensemble, ça reste une très belle journée estivale avec des températures qui continuent de grimper. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Et comme une envie de prendre l'air. Mais attention, ce long week-end de l'Ascension aura valeur de test.
Et comment les Français vont-ils se comporter? Vont-ils d'ailleurs respecter les règles? Et en particulier cette fameuse limite des 100 km/h.
En tout cas, la maréchaussée veille au grain sur les routes dès ce soir. Stéphane Frangy, vous êtes du côté d'Avignon, justement à un point de contrôle.
Oui, donc avec des unités mobiles qui sont en place pour tout ce week-end à rallonge sur les axes bien sûr fréquentés comme la sortie d'autoroute à cheval entre deux départements où je me trouve. Alors il y a déjà un beau soleil, c'est la fin de la semaine, il y a donc du passage bien sûr, les forces de l'ordre qui sont mobilisées comme ici finalement, ni plus ni moins que pour chaque année, pour chaque week-end de l'Ascension, période, on le rappelle, accidentogène. Ce ne sont pas donc des opérations dédiées essentiellement à cette question des 100 km puisque sont déployées par exemple les unités cynophiles pour les stupéfiants. Alors la voiture d'interception pour les gros excès de vitesse sont donc tout de même vérifiées. Ces dérogations pour les déplacements hors département de plus de 100 km, les forces de l'ordre qui repèrent tout simplement les plaques hors département et des contrôles qui sont faits finalement avec discernement, me dit-on, pour accéder par exemple à sa résidence secondaire, c'est non. Mais il y a quand même une marge d'acceptabilité. Le but est avant tout de faire de la pédagogie.
Et on parle évidemment des 100 km autour de chez vous, et non pas des 100 km/h, bien sûr. Stéphane Frangy, près d'Avignon.
C'était
pour Europe 1.
Allez, partout en France, on se prépare pour ce donc premier grand week-end déconfiné, et notamment dans les stations balnéaires.
Et on a vu tout à l'heure, Nathalie, à 18h avec Charles Guyard, que plusieurs communes du Morbihan avaient décidé de fermer leurs plages face au non-respect des consignes sanitaires par les habitants. C'est le cas aussi dans une commune du Finistère. Tandis que sur la côte méditerranéenne, dans l'Hérault, à la Grande Motte, on a opté pour un tout autre système. Alors là-bas, la bronzette est autorisée, mais la municipalité a instauré un dispositif pour le moins original pour allier le plaisir de la plage et la sécurité avec des espaces délimités et même des créneaux de réservation. Vous êtes sur place, Benjamin Péter, ça ressemble à quoi?
Eh bien honnêtement, c'est assez étrange. Alors concrètement, c'est un espace de 2000 m² clôturé par des piquets. À l'intérieur, vous avez des emplacements pour 2, 4, 6 personnes délimitées, eux, par des cordes. De quoi laisser beaucoup d'habitants médusés comme Youssef. Ça n'est pas vraiment la plage qu'il connaît.
On m'aurait dit il y a 4 mois, après ça, je vous dis, vous êtes au fond. L'été, c'est les gens ils se réunissent, ça rigole et tout. Là, en fait, ça va être chacun dans son coin, personne ne peut parler à l'autre. C'est atroce.
Mais pour les familles comme Joël et ses 4 enfants, c'est finalement un bon compromis.
On a réservé pour jeudi, donc c'est ça, ou il faut rester sur la plage avec les enfants à courir toute la journée. Donc on prend ce qu'on nous donne et je trouve que c'est déjà pas mal.
C'est Stéphane Rossignol, le maire, qui a proposé cette expérimentation à la préfecture.
Ce sont des emplacements sur 6 travées pour aller à la mer, une allée descendante, et pour revenir sur votre serviette, eh bien, vous prendrez l'allée montante. Il n'y aura donc en principe aucun croisement. Il n'y aura certes que quelques privilégiés, mais au moins il y aura tous les jours 500 personnes qui pourront poser leur serviette.
Alors on peut réserver à la demi-journée 48 heures avant, mais les places s'arrachent. Celles pour jeudi et vendredi sont parties en quelques minutes. Mais l'expérience est surveillée de près par la préfecture qui envisage de multiplier ces espaces le long du littoral.
C'est spécial quand même. Ça commence à partir de demain, donc, Benjamin Péter à la Grande Motte dans l'Hérault. Non, je crois que je vais rester sur mon balcon.
Ouais. Bon, allez, à quelques jours du début d'une grande concertation sur la santé, Olivier Véran promet de nouveau une revalorisation prochaine des carrières et des rémunérations des soignants. Il assure que le gouvernement tirera au plus tard à la mi-juillet les conclusions de ce Ségur de la santé pour apporter, dit-il, des réponses ajustées et construire un système plus fort et plus résilient.
Le gouvernement qui sera intransigeant sur la préservation des sites en France, des sites de chez Renault. Édouard Philippe a réagi cet après-midi au plan social à venir. Le constructeur automobile pourrait fermer 3 usines et reconvertir totalement son site historique de Flins dans les Yvelines. Renault doit tenir compte des réalités du pays qui, d'une certaine manière, fait vivre l'entreprise, a dit le Premier ministre.
Et Édouard Philippe qui reçoit justement en ce moment même les chefs de parti pour évoquer cette fois l'épineuse question de la tenue du second tour des municipales en juin, pas juin. Une date est évoquée le 28, mais tout reste à voir. Le conseil scientifique ne s'y oppose pas, mais réclame des conditions drastiques et notamment l'interdiction de tracter et d'organiser des meetings pendant la campagne.
En tout cas, c'est ce qu'on appelle un sujet touchy, Adrien Beck.
Oui, et hier soir, lors d'un dîner à l'Élysée, il y avait d'ailleurs alignement parfait entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe devant des dirigeants de la majorité et des ministres. Les deux têtes de l'exécutif l'ont dit. Ils espèrent, si les conditions sanitaires le permettent, solder ce scrutin le 28 juin, donc dans un peu plus d'un mois. Le chef de l'État, nous raconte un participant, a bien remarqué l'unanimité sur le sujet des associations de maires qu'il avait réunies en visioconférence juste avant ce dîner. Reste à décider des modalités, d'où la réunion de ce soir, quelle campagne, quelle garantie sanitaire le jour du scrutin. Un point sera en tout cas fait 15 jours avant le jour J. Les formations politiques sont majoritairement favorables à un second tour dès juin, toutes ou presque, car La République En Marche émet des réserves. Un de ses cadres nous confie redouter de ne pas pouvoir faire campagne et de passer totalement à côté d'une élection déjà mal engagée.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Une prime et jusqu'à 1000 euros, c'est le montant annoncé de prime pour les fonctionnaires de l'éducation nationale.
Oui, afin de récompenser ceux qui ont continué à accueillir les enfants de soignants et d'autres professions prioritaires pendant toute la durée du confinement.
Et eux aussi sont en première ligne. Les policiers, après la découverte d'au moins 3 cas de contamination au coronavirus dans le Nord, une grande campagne de dépistage a été lancée cet après-midi même. Ça s'est passé à Lille et à Arras.
Oui, et au total, 1 000 000 de fonctionnaires va être testé. Prélèvement par écouvillon. Écoutez, Christian Vulvéric, il est le commissaire central de Lille Agglomération.
Il y a un petit peu d'attente, mais c'est logique puisqu'on fait un test massif en quelque sorte, puisqu'on a plusieurs centaines de fonctionnaires qui sont convoqués. Le prélèvement par lui-même, le test, il est désagréable certes, mais il n'est pas douloureux. Ça rassure tout le monde, mais vous savez, lorsque vous avez des cas déclarés qui sont confirmés dans un service, tout le monde a un petit peu peur. 3 cas positifs, ça peut paraître dérisoire, sauf que dans un commissariat, le policier, il est au contact de tous ses collègues. Nous avons un travail qui est un travail souvent de contact, et donc, il fallait absolument prendre des précautions pour pas que l'épidémie se répande beaucoup plus qu'elle ne peut l'avoir été jusqu'ici.
Un commissaire lillois au micro Europe 1 de Maximilien Carlier.
Europe 1.
À suivre sur Europe 1 dans le journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Avec Demain en France dans un instant et un casse-tête pour les commerçants, comment écouler les stocks après 2 mois de confinement? Rabais, soldes? Aïe, 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 la question est entière.
Et puis demain dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 17% sur l'ensemble de la planète pendant le confinement.
Europe 1.
Terre. 19h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Et c'est demain en France, et oui, on regarde vers demain avec vous Jean-Pierre Montanet. Alors on commence parce que après 2 mois de confinement, c'est le casse-tête absolu pour les commerçants d'habillements. Ils croulent littéralement sous les stocks.
Oui, exactement, 2,5 milliards d'euros, c'est le chiffre du jour, Nathalie. Le montant pharaonique de la montagne d'habits qui encombre les magasins indépendants, c'est-à-dire les boutiques multimarques ou les franchisés. La réouverture draine seulement un tiers de la fréquentation habituelle. habituel. Un quart seulement de ce petit commerce a consenti quelques promos raisonnables autour de 20%. Et oui, pour maintenir leur marge, ces boutiques cherchent à tout prix à écouler chemises et pantalons au prix fort. Pour Eric Mertz, le patron de la Fédération nationale de l'habillement, c'est une question de survie. Il faut absolument repousser les soldes, initialement prévues le 24 juin à la fin de l'été, le 19 août par exemple.
Et forcément, ça n'est pas du goût des grandes enseignes ou des grands magasins, bien sûr.
Eh bien non, Isabelle, la priorité des Zara, H&M ou encore des Galeries Lafayette, qui ont hâte de rouvrir, c'est de se débarrasser au plus vite de ces invendus encombrants. La directrice d'un magasin en région lyonnaise, d'une chaîne internationale de vêtements, se retrouve avec 40 000 pièces sur les bras, la moitié déjà bradée, 30, 50, voire 70% de rabais. Johan Petiot, président de la Fédération des enseignes, plaide, lui, pour des soldes le plus tôt possible, fin juin, histoire de tout liquider et de remplir les caisses pour passer à autre chose. En fait, on se dirige plutôt vers des soldes le 15 juillet, date qui ne fera que des mécontents, trop tôt pour les petites boutiques qui n'ont pas les moyens de vendre à perte et trop tard pour les grands magasins qui estiment que les clients auront déjà alors la tête en vacances.
En fait, il faudrait deux dates pour bien faire. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet, à demain.
À demain. Demain dans le monde, on se tourne maintenant vers vous. Bonsoir Didier François.
Bonsoir Isabelle.
Avec ce chiffre impressionnant, publié par le Centre international de recherche sur le climat, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 17% sur l'ensemble de la planète entre les mois de janvier et d'avril. Un record qu'explique le directeur de cette étude.
Historiquement, c'est la plus grosse chute en termes absolus sur une année. Oui, la plus grosse depuis des décennies.
Eh oui, et on est revenu en fait à un taux de pollution au dioxyde de carbone qui était celui de l'année 2006, 14 ans en arrière. Alors c'est pas rien, évidemment, c'est une conséquence des mesures de confinement généralisées qui font qu'on a consommé beaucoup moins de pétrole et de charbon, avec en tout premier lieu le ralentissement de la circulation routière, voitures, camions, qui compte pour un peu plus de 40% du total de la baisse. Derrière, c'est la fermeture partielle des usines qui a fait chuter d'un quart les émissions de CO2, puis vient la consommation d'électricité, presque 20%, et enfin l'arrêt total du transport aérien, mais qui représente que 10% des rejets carbonés.
Quoi qu'on en dise, c'est ce que me confirmait tout à l'heure Alexandre de Juniac. De toute façon, les taux, ils vont remonter inévitablement avec la reprise.
On le voit déjà en Chine, en fait. Premier pollueur mondial, où les émissions reprennent de plus belle. Mais et tout de même, à la fin de l'année, on devrait rester sur une baisse globale qui sera, alors selon les études, entre 4 et 7%. On sera donc pour la première fois dans les limites fixées par la COP21, qui prévoit que les États réduisent de environ 3% chaque année leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030 pour limiter justement le réchauffement de la planète à 2%. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on se dit quand même qu'on ne va pas faire un déconfinement de 3 mois tous les ans pour rester dans les clous. Il serait donc assez urgent de trouver un modèle économique un peu moins dépendant des énergies fossiles.
Peut-être pas 3 mois, mais 3 semaines.
Oui.
On espère qu'on va en tirer les leçons en tout cas. Merci beaucoup Didier François, on vous dit à demain.
Merci Isabelle Millet. On vous retrouve évidemment à 19h30 avec Anissa, un coup d'œil vers le ciel.
Oui, avec demain un petit peu plus de nuages, mais enfin rien de très inquiétant. Sur l'ouest du pays, nous aurons donc des nuages d'altitude venus de l'océan dans le ciel. Ces nuages vont se dissiper très vite pour de nouveau laisser place à un ciel assez ensoleillé. Dans le sud, sur les Alpes et les reliefs corses, là, les cumulus vont se former et ils sont un petit peu plus nombreux que sur le reste du pays, avec donc un risque d'averse toujours sur les reliefs. Il va faire chaud demain avec 10 à 16 degrés le matin jusqu'à 20 au bord de la Méditerranée. Dans l'après-midi, ça grimpe encore avec 18 à 24 degrés au nord-ouest sur les côtes de la Manche, 25 à 30 degrés sur l'ensemble du pays, 25 à La Rochelle, 26 à Marseille et Chambéry, 28 à Nancy et Limoges, 29 à Lille et Lyon, 30 à Paris demain et jusqu'à 33 sur le Languedoc-Roussillon et la Provence.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous Nathalie Lévy et dans un instant l'interview de demain.
Oui, parce que demain c'est l'ascension en fait importante pour les catholiques à quelques jours de la réouverture des lieux de culte. Je reçois Monseigneur Denis Jachier, il est évêque auxiliaire du diocèse de Paris et ça se passe sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Demain, les catholiques fêtent l'Assomption à quelques jours de la réouverture des lieux de culte. Votre invité ce soir est Monseigneur Denis Jachier, l'évêque auxiliaire du diocèse de Paris.
Bonsoir Monseigneur Denis Jachier, merci d'être en direct à mes côtés sur Europe 1. Alors, veille de l'Assomption, bien sûr. Les fidèles auraient voulu se retrouver, s'organiser pour pouvoir évidemment être dans les lieux de culte. Il faudra encore attendre 8 jours avant que le gouvernement dédicte les règles sanitaires à suivre dans les différents lieux, même si le Conseil d'État a tranché, c'était lundi soir. Comment vous avez réagi d'abord à cette annonce ?
Ah bah d'abord, ça a été une bonne nouvelle de se dire que le Conseil d'État rappelle que la liberté de culte est fondamentale et qu'on ne peut pas simplement la mettre sous le boisseau en disant d'autres activités peuvent reprendre mais pas le culte. Il faut que ce soit proportionné. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et de dire que se rassembler, se retrouver ensemble pour célébrer notre foi, eh bien ça fait partie de cette liberté fondamentale.
Alors voilà, le Conseil d'État a tranché en votre faveur. Ça veut dire quoi ? Qu'on pourra célébrer la Pentecôte fin mai dans les églises ?
Ben, c'est bien ce qu'on espère, mais c'est pas encore fait. Parce que le Conseil d'État a demandé au gouvernement de revoir sa copie, mais on n'a pas encore le résultat. Donc, on espère bien. Évidemment, pour demain, c'est pas possible, mais pour la fête de la Pentecôte, on espère bien pouvoir la célébrer en communauté.
Comment vous allez procéder, alors, donc, à distance pour l'Assomption demain?
Alors, demain, ça reste le système vraiment du confinement strict, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir du public. Donc, on continue ce qu'on a mis en place, si vous voulez, depuis le début du confinement, c'est-à-dire des messes retransmises par Internet, par la télévision, auxquelles on peut s'associer par écran interposé.
D'accord. Donc ça, c'est évidemment pour demain. Et alors, pour la Pentecôte, le 31 mai, est-ce que vous avez anticipé un protocole sanitaire? Et quel est-il? Comment se dessinerait-il?
Ah bien sûr, on a vraiment tout préparé. Alors d'abord, on va respecter les distances qui sont données, hein, qui sont données dans les normes qu'on applique partout, hein, dans la vie professionnelle ou la vie scolaire. Hein. 4 mètres carrés par personne, une distanciation, on a prévu d'1,50 m entre chacun. Mmh. Donc on condamne des chaises, hein, dans les églises.
Donc ça veut dire qu'il y aura moins de fidèles possiblement à l'intérieur.
On peut pas faire le plein, ça c'est sûr. Donc il faudra peut-être célébrer un peu plus de messes, là où il y a beaucoup de pratiquants, et puis bien s'espacer dans l'église, porter le masque bien sûr, hein, et puis faire bien attention au moment de la communion pour ne pas risquer de transmettre le virus. Donc on a tout un processus qui est mis en place avec nettoyage des mains, etc., un parcours à suivre.
Donc vous êtes fin prêt pour le jour où les autorités vous autoriseront à organiser le culte. Les barrières, ils sont finalement peut-être plus simples à faire respecter lors d'une messe que dans pas mal d'autres endroits au fond.
Moi, je dirais les catholiques sont assez obéissants, vous savez. Hein. Ils n'ont pas cherché à tricher avec les règles du gouvernement. Ils sont bien conscients. Et quand on leur expliquera que voilà, il faut porter le masque et puis qu'il ne peut pas y avoir de chorale et puis ceci et puis cela, ils s'y plieront.
Il y a quand même un élément, c'est lors de la communion. Comment fait-on, Monseigneur Denis Jachier, par exemple, impossible de déposer l'hostie dans la bouche des fidèles, non ?
Ah non, on fera effectivement uniquement, vous savez, on a plusieurs manières pour donner la communion, mais là, on ne la donnera que dans la main, parce que ce serait vraiment trop dangereux de risquer de contaminer en la déposant dans la bouche.
Il y a une vraie attente, une attente importante de la part des fidèles, c'est ce que vous avez pu recueillir là au fil des semaines ?
Ah oui, oui. Autant au début, on se disait, c'est formidable, on a des moyens numériques, on découvre d'autres manières de faire. Autant maintenant, on sent qu'on a vraiment besoin de se retrouver. On a besoin à la fois de recevoir les sacrements, hein, ça nous a vraiment manqué pendant toute cette période de carême et de temps pascal. Et puis, on a besoin aussi de se revoir, de contact personnel, d'accompagnement, vous voyez. On s'est beaucoup concentré sur la réponse sanitaire et c'était absolument nécessaire, mais ça ne suffit pas.
Oui, mais quand même, il y a des voix qui s'élèvent, Monseigneur Denis Jachier, il y a des voix qui s'élèvent, oui. Et notamment les responsables religieux musulmans et juifs d'ailleurs, qui disent qu'ils sont beaucoup moins pressés d'accueillir les pratiquants en nombre, parce que réautoriser si tôt des rassemblements de grande ampleur, pour eux, c'est risque de cluster, risque de nouveaux foyers, et on a vu ces foyers épidémiques partis d'un enterrement typiquement en Dordogne.
Oui, je comprends cette crainte. Hein. Donc, ça, il y a une vraie vigilance à faire. Alors, je pense que toutes les communautés ne sont pas organisées de la même manière. Le culte évangélique, le culte musulman fonctionne pas tout à fait comme les messes catholiques. Mais si vraiment on est prudent, si vraiment il y a un comité d'accueil, comme on l'a prévu, à l'entrée de chaque église, qui comptera le nombre de places disponibles, qui fermera les portes une fois que les quotas seront remplis, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on mette plus en danger en allant à l'église qu'en allant au supermarché ou à l'école.
Comment vous expliquez que ce sont les associations qui ont saisi le Conseil d'État et non pas les représentants religieux pour obtenir ce oui? Alors ce oui est là dans les 8 jours, mais en tout cas cette levée d'interdiction générale.
Alors, il y a plusieurs moyens d'action. Celui qui avait privilégié la conférence des évêques, c'était le dialogue avec le gouvernement. On avait envoyé, il y a déjà une semaine, tout un protocole pour le faire valider, pour rouvrir le culte. Et c'est vrai que le gouvernement avait dit, bon, ça, ce sera pour plus tard. Et par ailleurs, effectivement, plusieurs associations ont fait une démarche juridique qui s'est complétée d'une façon ou d'une autre, et puis qui invite le gouvernement maintenant à donner de nouvelles directives.
C'était quand même... les représentants religieux se sont pas retrouvés un peu... embêtés, mal à l'aise de voir que c'était pas eux qui avaient obtenu cette décision ?
Honnêtement, non. Moi, je trouve pas, parce que cette décision-là, si vous voulez, elle est un acte juridique qui, je vous dis, me réjouit, parce qu'il réaffirme la liberté de culte, mais en même temps, qui ne détermine pas de quelle façon le gouvernement va répondre. Donc, il faut bien qu'on soit en dialogue avec le gouvernement. Il faut bien que les responsables de culte rencontrent le Premier ministre. Ils vont le faire aussi avec le président de la République, je crois, la semaine prochaine. Et c'est là que vont se décider, finalement, à quelques jours de la reprise du culte, sous quelle forme ce sera possible.
Les associations, elles ont déposé pour certaines une plainte en référé au Conseil d'État sur cette fermeture des lieux de culte. Elles ont dénoncé une menace sur la liberté de culte en France. Vous diriez qu'il y a eu vraiment une atteinte à la liberté de culte dans cette période, de crise sanitaire et de danger véritablement pour finalement de la protection de la vie en fait.
Moi, je dirais pas vraiment une atteinte profonde. Je dirais un manque d'attention. Il faut que les juristes, quand ils émettent des décrets, etc., ils portent bien attention à toutes les dimensions de nos libertés. Et il n'y a pas, si vous voulez, si on range le culte parmi les activités de loisirs, eh bien on a tort. Parce qu'on dit, alors finalement, on peut se passer d'aller à la piscine dans les parcs, donc c'est pas très grave, on va se passer d'aller à la messe. Eh bien non, c'est d'un autre ordre. C'est pas de l'ordre de la liberté de loisir, c'est de l'ordre de la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale dans notre société, dans notre constitution. Donc je crois que c'était bon de le rappeler.
Mais on est dans une situation extrême. À situation extrême, décision, et mesure extrême, non ? Exceptionnelle.
Mais ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est très intéressant. Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ce n'était pas proportionné. Il n'a pas dit que l'État n'avait pas le droit d'interdire un certain nombre d'actes qui pouvaient propager l'épidémie, bien sûr, mais que les décisions n'étaient pas proportionnées par rapport à ce qui était décidé ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de rendre les choses équivalentes, si vous voulez.
Monseigneur Denis Jachier, on a vu à Châlons-en-Champagne, par exemple, une messe reprendre sur un parking. On a vu comme ça différentes façons de communier, en quelque sorte. Est-ce que ça peut quand même être aussi, pour l'Église, une occasion, si je puis dire, de se réinventer cette crise du Covid ?
Moi, je dirais, à situation extraordinaire, réponse extraordinaire. La messe en drive-in, j'avais assisté à ça aux États-Unis il y a déjà quelques décennies, c'est pas tout à fait notre culture. Bon, là, il y a une situation exceptionnelle qui l'a permis, tant mieux. Mais je pense pas du tout que ce sera le nouveau mode de pratique, vous voyez.
Bien sûr, ça reste exceptionnel. Juste un mot encore, parce que le Conseil d'État, donc, normalement, se prononce quand ? Est-ce que vous avez une date ? Et est-ce qu'on a quand même quelques éléments sur la prochaine date, à savoir le protocole sanitaire pour la Pentecôte le 31 mai, quand est-ce que vous aurez une réponse ?
Je pense que la réponse, on l'aura dans le courant de la semaine prochaine, puisqu'il est prévu que le président de la République s'adresse aux responsables de culte, vers le 25-26 mai. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura une réponse, en fonction évidemment aussi de ce que les responsables auront dit de l'état sanitaire de la France. Mais nous espérons bien pouvoir fêter la Pentecôte, et donc que ça n'attende pas début juin. Voilà.
Merci beaucoup Monseigneur Denis Jachier. En tout cas, demain c'est l'Ascension, et donc vous procéderez comme vous l'avez fait depuis deux mois, donc pour évidemment vos fidèles. Merci beaucoup de m'avoir répondu ce soir sur Europe 1. On va rester ensemble dans un petit instant. On parle de vous, de nous, du travail qui a changé évidemment durant ce confinement, avec le télétravail en force. On partage nos expériences de vie. Nous serons avec la philosophe Julia de Funès et avec vous bien sûr au 39-21 comme chaque soir.
Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et on se retrouve Isabelle Millet avec un nouveau rappel des titres.
Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, fait état ce soir du plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde. En une seule journée depuis le début de la pandémie, 106 000 cas au cours des dernières 24 heures. Près des deux tiers dans quatre pays, les États-Unis, la Russie, le Brésil et l'Arabie Saoudite. En France, les négociations sur le plan santé débuteront lundi prochain et dureront un peu plus d'un mois et demi. Les premières conclusions devront être rendues à la mi-juillet, selon Olivier Véran, qui a déjà promis des hausses de salaire pour les personnels des hôpitaux, mais aussi ceux des États. EHPAD. Une cinquième branche pourrait voir le jour au sein de la Sécurité sociale consacrée à la vieillesse et à la perte d'autonomie. Le gouvernement présentera un projet de loi en ce sens à la rentrée. Deux complices présumés de Carlos Ghosn arrêtés aux États-Unis, ils l'auraient aidé dans sa fuite du Japon en le dissimulant, vous savez, dans un caisson d'instruments de musique. Il s'agit d'un ancien membre des forces spéciales américaines et de son fils. Et puis un nouveau tweet assassin du locataire de la Maison Blanche. L'incompétence de la Chine dans la gestion du coronavirus a provoqué une tuerie de masse mondiale, c'est ce qu'écrit Donald Trump.
Merci Isabelle, à demain, 18h.
À demain.
À mes côtés, votre grand journal du soir. Anissa, le ciel et des températures toujours en hausse.
Oui, effectivement, il fait de plus en plus chaud, Nathalie. Et demain, on va vraiment ressentir cette sensation de chaleur et puis surtout cette sensation estivale. Demain sera une journée d'été avec, demain matin, des nuages d'altitude qui vont arriver par l'ouest. Vous savez, ce voile nuageux assez léger, mais qui va quand même de temps en temps masquer le soleil. Sur les Alpes et la Corse, nous aurons des cumulus d'altitude qui pourront apporter quelques gouttes dans l'après-midi, accompagnés de coups de tonnerre. Et puis, je vous le disais, les températures, écoutez bien, demain après-midi, 18 à 24 au nord-ouest sur les côtes de la Manche, 25 à 30 degrés ailleurs, on aura 28 à Nancy et à Limoges, 29 à Lille et Lyon, 30 degrés à Paris et jusqu'à 33 degrés demain après-midi sur le Languedoc-Roussillon et la Provence.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et jusqu'à 20h on parle ce soir de télétravail, de revenu universel, on parle de l'avenir du travail. Est-ce que le monde du travail va changer suite à ce confinement et à cette pandémie? Vous pouvez réagir et venir nous rejoindre au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et on est avec nos invités notamment ce soir Julia de Funès, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes conférencière, auteur, philosophe, spécialiste du travail. On va passer évidemment quelques minutes avec vous. Nous rejoint également Bertrand Martineau. Bonsoir, vous êtes économiste, membre de l'Institut Montaigne, spécialiste de la question du chômage, des politiques de l'emploi et du dialogue social. Et puis André Viola, président Bonsoir. Du Conseil départemental de l'Aude. Bonsoir à vous. Vous êtes signataire d'un appel avec 19 présidents de département pour une expérimentation du revenu universel suite au coronavirus. Bonsoir à tous les trois et merci beaucoup de nous accompagner ce soir. Julia de Funès, je voudrais démarrer avec vous sur cette première question. Le télétravail, il a clairement fait des heureux hein, durant cette période de confinement. Est-ce que véritablement c'est un modèle qui peut faire, qui peut être pérenne?
Alors je crois qu'il a fait des heureux avant confinement. Pendant confinement, il a fait aussi des anxieux parce que c'était très compliqué pour les gens qui télétravaillaient de mêler toutes les activités qui étaient aussi en télé quelque chose, le téléenseignement, etc. Donc le télétravail, si on confond la période télétravail-confinement et la période télétravail hors confinement, c'est très différent. Il fait évidemment des heureux, beaucoup de salariés aspirent à ça, ça se comprend, c'est une opportunité d'autonomie, de confiance, une libération sur plein de points. Mais en revanche, il ne faut pas le confondre, évidemment, il ne faut pas juger l'essence du télétravail à partir de la circonstance du confinement.
D'accord. Alors certains l'adorent, en effet, vous l'avez dit, d'autres l'exècrent. On a bien compris. Ça, c'est pour les salariés. Du point de vue maintenant de la direction d'une entreprise et des entreprises, est-ce qu'on est prêt à cheminer dans ce sens-là et à laisser son salarié à son domicile? Est-ce qu'on a confiance en lui et on se dit il va travailler assez de toute façon, ou est-ce qu'on est toujours dans ce système où on veut le verrouiller pour pouvoir compter les heures effectuées?
Le seul argument, une fois qu'une liberté comme le télétravail est octroyée, c'est très difficile de revenir en arrière. Il n'y a plus du tout d'argument contre le télétravail possible. En gros, les deux arguments qui étaient contre tournaient à peu près autour des mêmes choses. C'était un, c'est très difficile à mettre en place. On a vu qu'en quelques jours, quelques semaines, ça a été très facilement, enfin pas très facilement, mais ça a été mis en place assez rapidement dans les organisations les plus complexes. Et deux, le contre-argument, c'était ça va déliter les liens sociaux. Ce qui est archi faux, puisqu'on voit que les communications n'ont pas du tout chuté et que les gens sont très heureux de retrouver justement des relations réelles après avoir eu des relations virtualisées et suspendues. Donc il n'y a plus tellement de contre-arguments à ça. Le seul contre-argument, c'est effectivement maintenant quelqu'un qui refuse ou une direction qui refuse de télétravail, c'est une direction qui cherche le contrôle plus que la confiance. Alors surtout qu'il ne sorte pas la fameuse phrase la confiance n'exclut pas le contrôle. Il n'y a pas pire hypocrisie, c'est une phrase qu'on rapporte à Lénine, c'est pas tout à fait prouvé, mais vous savez, quand on est dans la confiance, l'étymologie du mot est très parlant. Ouais. Confiance, ça vient de cum fidere, ça veut dire avec foi, c'est-à-dire qu'on est dans la croyance. Quand on croit en soi, quand on croit en l'autre, quand on fait confiance, on parie sur l'autre, mais l'autre peut toujours nous tromper, nous trahir, nous décevoir. Ce qui est l'opposé du contrôle, qui est du registre de la connaissance, du cognitif, de la preuve, du tangible. Donc on peut pas, il y a des phases de contrôle nécessaires, il y a des phases de confiance nécessaires, mais les deux de manière concomitante, c'est impossible.
Juste un mot encore, et puis on va aller sur le revenu universel avec mes invités. Il y a déjà des start-up qui étaient rodées, ou des entreprises qui étaient rodées au télétravail. Le confinement a été une rampe de lancement. Les voilà prêts, ça y est, à enchaîner. Exit les bureaux, ça commence vraiment à faire des petits.
Mais vous avez raison, le paradoxe c'est que l'arrêt du Covid de cette période-là a brusqué l'avancée finalement. On a évité du coup des semaines, des journées, des mois de discussions autour de la légitimité ou de la valeur du télétravail. Le Covid nous a permis de passer un cap et de tout de suite l'installer et le généraliser dans la plupart des cas. Donc ça a été évidemment un bienfait. Et ce qui sera formidable, c'est qu'on va retrouver une sorte d'hybridation dans les modes de fonctionnement. Bien sûr que ce ne sera pas un télétravail imposé, mais ouais, les conséquences sur l'immobilier de bureau seront évidemment déterminantes. Bien sûr. Et le paradoxe inouï, c'est que jamais l'immobilier de bureau n'avait été autant investi. Vous avez vu les entreprises qui ressemblent à des blocs de verre magnifiques avec des rooftops végétalisés, ouais, des restaurants, des piscines, tout ce que
avec
vous voulez.
Des espaces,
donc c'est très sympa d'avoir un cadre de boulot agréable. Mais on n'a pas demandé aux salariés ce qu'ils préféraient. Et ce qu'ils préfèrent quand même, être très libres dans leur mouvement, dans leurs espaces de travail et dans leur temps. Ouais. Donc évidemment, les conséquences sur l'immobilier de bureau et des villes va prendre un coup.
Évidemment. Bertrand Martineau, vous êtes économiste. Comment vous regardez tout ça avant d'aller avec vous sur la question du revenu universel et en débattre notamment avec André Viola? Bertrand Martineau, on est vraiment dans un cheminement vers le télétravail massif en France?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julia de Funès. C'est-à-dire, en fait, on est en train d'observer une accélération en fait de cette forme de travail, mais de manière générale, on va de fait de cette crise, on va observer une accélération dans tous les domaines économiques, sociaux, technologiques, de choses qui étaient déjà en germe, en fait. Bon, ce qui va se passer, ce qui est très important, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est le télétravail, c'est pas du tout qu'un problème technologique, évidemment. Les sujets technologiques sont pas encore totalement surmontés. Ils vont l'être d'ici quelques années. On aura sans doute même des avatars. Il n'y a pas de difficulté à ça, ou des hologrammes plutôt. Mais ce n'est pas qu'un sujet technologique. Fondamentalement, ça remet en cause les modes de management. Et ça remet en cause finalement les relations finalement qu'on a entre employeurs et sa hiérarchie, avec une réflexion sur l'avenir de ce qu'on appelle le contrôle, un sujet d'individualisation des horaires de travail, oui, aussi, hein, et puis des deals qui peuvent se nouer au sein des entreprises, oui, et aussi d'ailleurs dans les administrations publiques. Le télétravail, c'est aussi dans une région comme l'Île-de-France, c'est aussi plusieurs heures de transport
et
en
puis
commun,
c'est aussi un argument économique, non, pour pas avoir de locaux, de bureaux.
Je m'empresse de dire qu'à mon avis, l'optimum n'est évidemment pas, oui, le travail 5 jours sur 5.
Bien sûr, on a bien compris.
L'optimum, c'est sans doute
la variété,
pour
en fait.
Pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, y compris psychologiques, d'interaction humaine, évidemment, d'efficacité économique, pour tout un tas de raisons. L'optimum, c'est sans doute un ou deux jours, c'est peut-être ça, trois dans certaines entreprises, mais en général, c'est ça. Et vous pouvez passer des deals, y compris sur le temps de travail, d'ailleurs, au passage, parce que vous économisez plusieurs heures, souvent de transport pénible par semaine. Et finalement, ils s'aperçoivent, c'est l'expérience que j'ai eue à la région Île-de-France, où par exemple, Valérie Pécresse a créé le télétravail à partir de 2018 progressivement, et en échange, elle a supprimé quelques jours de congé, enfin des jours de RTT, et je peux vous assurer que les agents de la région Île-de-France y étaient très largement gagnants, parce qu'ils en confort, finalement, en confort de vie et en économie, donc sur les transports en commun, ils gagnaient beaucoup plus que les quelques jours de RTT qu'ils avaient perdu.
Oui, ben voilà. Alors Bertrand Martineau, André Viola, restez avec moi parce que on va aller sur le revenu universel dans un petit instant et on va en discuter. Julia de Funès, je voudrais simplement qu'on entende un auditeur. Antoine est avec nous. Antoine Damien, bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes entrepreneur, vous, et vous êtes favorable à une continuité du télétravail que vous avez peut-être évidemment testé en nombre pendant ce confinement.
Ben tout à fait. Comme beaucoup d'entreprises, on a eu recours au télétravail en masse. On avait un petit peu peur sur certains postes, notamment des postes administratifs ou de comptabilité. Et ça nous a un petit peu forcé la main à généraliser le télétravail. Et je trouve que c'est un sacré révélateur de nos collaborateurs, qui certains se révèlent de par leur efficacité, leur enthousiasme, parce qu'ils trouvent un meilleur équilibre de vie. Et puis d'autres dont on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin d'un lien social et du bureau, parce que bon, on n'a pas tous le même environnement en home office. Et c'est l'enjeu, il est vraiment là, je pense, d'arriver à trouver ce bon compromis. Je rejoins ce que disait le leader précédent sur Bertrand Martineau, pardon, excusez-moi. Ouais, faut garder ce sens et ce sentiment d'appartenance à la société pour garder cet enthousiasme et cette performance. Moi, j'aime bien partir d'un concept d'utopie pragmatique. Et oui, il faut être utopique dans la vie. L'utopique, c'est qu'on prenne du plaisir dans son travail. Et je pense que le télétravail peut participer à cette avancée.
À cette avancée. Effectivement, merci beaucoup en tout cas de votre intervention pertinente, très intéressante, Antoine, donc qui nous a appelé Damien ce soir sur Europe 1. Juliette de Funès et Bertrand Martineau, un mot quand même, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur le télétravail. Il y a des secteurs dans lesquels c'est possible et des secteurs où c'est totalement impossible, inimaginable, Julia de Funès. Donc forcément, ça va créer des disparités, des inégalités entre salariés dans la même entreprise, déjà.
Disparités, bien sûr, disparités sectorielles et même inégalités sociales. C'est un des gros désavantages du télétravail. On l'a vu pendant la période de confinement, les enfants qui n'étaient pas outillés numériquement ont très vite été exclus du suivi pédagogique. Les personnes âgées qui ne sont pas outillées numériquement, en plus d'être isolées, étaient très seules, profondément seules. Donc effectivement, ça crée des inégalités sociales. Et ce serait trop réducteur aussi de dire le télétravail, parce que c'est vrai qu'il est principalement utilisé par des cadres. Le télétravail du côté des riches et les non-télétravailleurs sont du côté des pauvres. C'est archi faux, même si effectivement il y a beaucoup de métiers, femmes de ménage qui ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils sont manuels. Néanmoins, vous pouvez trouver exactement l'inverse. Un pilote de ligne ne peut pas télétravailler, un chirurgien ne peut pas télétravailler et une assistante peut télétravailler. Donc ce que ça veut dire, c'est que le télétravail génère malheureusement des inégalités sociales qu'il s'agira de compenser d'une façon ou d'une autre, mais il ne provient pas d'inégalités sociales, il provient d'inégalités sectorielles.
Bien sûr. Et Bertrand Martineau, sur ce point, peut-être pour compléter, est-ce qu'il faut du coup pérenniser le télétravail quand on sait que ces inégalités, elles seront là, elles sont là parce qu'elles sont sectorielles et elles seront là inévitablement et durablement?
Alors, pérenniser le télétravail, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui, en droit, le télétravail n'est pas un droit. Il n'y a pas de droit au télétravail. Oui. Mais en fait, avec ce qui est en train de se passer, j'imagine qu'il y a assez peu d'entreprises qui pourront échapper à une négociation sur ces sujets. Et donc, c'est au niveau des entreprises, mais aussi des administrations que ça va se jouer. Il va falloir investir aussi dans les matériels informatiques. Il va falloir passer des deals. Il va falloir traiter de manière différente les gens qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas, sans tomber d'ailleurs dans l'excès de penser que ceux qui peuvent télétravailler sont forcément des privilégiés, parce que télétravailler, c'est aussi généralement
être
au forfait jour, pas d'horaire, vous travaillez le soir, ça peut être aussi un problème de charge mentale très importante. Donc il ne faut pas opposer les salariés les uns aux autres, évidemment, mais il y a des deals à trouver sur, encore une fois, les primes, le temps de travail, les conditions de travail, et ça peut se faire qu'au niveau vraiment totalement local, entreprise par entreprise, administration par administration.
Bon, alors on va revenir avec vous tous évidemment dans cette partie consacrée à l'évolution du monde du travail. Vous nous accompagnez jusqu'à 20h sur Europe 1 et avec les auditeurs. À tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et jusqu'à 20h, on parle de télétravail, on parle de revenus universels, on parle de l'avenir du monde du travail avec cette pandémie. Vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre au 39-21.
Et on était avec les auditeurs, vous l'avez compris, avec nos invités également, Julia de Funès, vous êtes philosophe, vous avez beaucoup travaillé évidemment sur ces questions, auteur du livre Le Développement Impersonnel, le 1 entre parenthèses, le succès d'une imposture aux éditions de l'Observatoire. Julia de Funès, un dernier mot encore, parce que je voudrais qu'on aille aussi sur le revenu universel. Le télétravail, ça fonctionne extrêmement bien dans les pays nordiques et on l'a vu, enfin dans certains, et on l'a vu, cette pandémie a été aussi moins virulente dans ces pays-là parce que, de fait, il y avait moins de monde dans les transports pour se rendre au travail et moins de monde dans les rues. Ça peut aussi être la solution, compte tenu du danger, évidemment, qu'on fait courir à la planète, de ces pandémies qui vont peut-être se décupler avec les années, en tout cas, des situations pour l'humain qui sont compliquées.
Bien sûr, c'est une des solutions. Et en fait, face à ce qui nous arrive et face à la fatalité du sort qui est totalement imprévisible, il va falloir faire preuve d'intelligence d'action. Ça, c'est-à-dire savoir jouer avec les aléas, avec les contingences, avec les fatalités. Et c'est pour ça que tous les modes de fonctionnement, il ne s'agit pas de dire le télétravail, c'est la nouvelle forme de travail et de le systématiser. Parce que ça, là encore, on tomberait dans une forme de rigidité. Mais je pense que l'intelligence d'action, c'est de se dire, voilà, on multiplie les modes de fonctionnement. On va faire en sorte qu'une hybridation soit la plus variée et la plus large possible pour qu'en cas de catastrophe, de fatalité, on puisse s'adapter.
Qui n'est pas un monde économique à l'arrêt.
Et le télétravail.
Et qui n'est pas un monde économique
voilà,
à l'arrêt. En fait.
Là,
c'est vraiment...
On a parlé évidemment des métiers de première ligne qui étaient vraiment au front, mais heureusement que le télétravail et que le numérique existaient pour subvenir aux activités des entreprises. Donc c'est essentiel. On a compris grâce à la période Covid, la nécessité absolue de ces télécommunications.
Mais c'est le modèle hybride qui pourra sans doute être la solution. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit, Julia de Funès.
Le mode agile,
voilà, c'est
exactement.
Ce que je résume, pardonnez-moi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés, Julia de Funès, philosophe, auteur donc de Développement impersonnel, le succès d'une imposture aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On va s'entretenir aussi avec Stéphane ce soir. Bonsoir Stéphane, vous nous appelez de Versailles.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci Nathalie.
Alors, pour élargir un petit peu ce soir, parce qu'on parle du travail, on parle de l'industrie, on parle de nos entreprises, on va parler revenu universel dans un petit instant. Quelle est votre vision, vous, demain, du monde économique ?
Parce qu'en fait, la vraie question, c'est le travail va changer, mais est-ce que ça va être en mieux ? Parce que si c'est pour reproduire à nouveau les mêmes dérives et les mêmes problèmes, avec le télétravail, c'est-à-dire une forme d'isolement du salarié par rapport à son employeur, je ne sais pas si ça va être un mieux. Effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense que...
Parler d'agilité aussi, c'était la conclusion.
Par exemple, exactement. Si par contre, il y avait également un changement dans le management, si en fait, cette pandémie permettait aussi de faire avancer les choses, notamment, par exemple, pour le travail des femmes, je pense notamment à ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est chronophage. Et beaucoup pour les femmes qui, en plus, ont les transports, ont des fois des réunions totalement inutiles, des séminaires d'entreprise, et on ne pense pas assez aux femmes. Moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont en train aussi, là, en ce moment, de réfléchir à l'organisation, effectivement, du travail et de la présence utile ou pas à l'entreprise. C'est-à-dire que...
C'est rare d'entendre ce propos.
Écoutez, moi je travaille énormément pour faire avancer la parité homme-femme dans les grandes entreprises, c'est aussi un peu mon combat. Je suis très très au fait justement de ces nouveaux managements, de ces nouveaux chefs d'entreprise qui prennent en compte, la vie personnelle qui
des
est
salariés.
Nécessaire.
Ouais.
Exactement. Et notamment pour les femmes, le télétravail a permis pendant cette pandémie, de rester au foyer, c'est-à-dire d'avoir cette vie professionnelle, mais aussi de consacrer plus de temps à leur enfant. Et je crois que c'était essentiel.
Merci beaucoup Stéphane. Écoutez, intervention intéressante à laquelle évidemment beaucoup de femmes doivent souscrire ce soir. Bertrand Martineau, est-ce qu'on va repenser aussi cette disparité et ces inégalités hommes-femmes à l'aune de cette crise ?
Probablement. Bon, d'abord, je rappelle, le télétravail n'est pas une panacée, c'est pas 5 jours sur 5.
Là, bien sûr. Non, mais tout en élargissant aux femmes, oui.
C'est pas en même temps qu'on fait l'école aux enfants, etc. Bon, non, mais ce qui est sûr, c'est que ça va avoir des impacts dans toutes les directions. Il y a des impacts, effectivement, sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, avec des opportunités et des risques. Les opportunités, c'est que vous pouvez éventuellement aller chercher vos enfants à l'école et puis travailler plus tard. Ça, c'est formidable. Le risque, c'est la surcharge mentale, c'est le fait que le travail s'immisce dans la vie privée, dans la vie personnelle. Donc il va falloir... il y a aussi une dimension sur la transformation des emplois. Le télétravail, c'est aussi une façon, alors il y a des avantages et des inconvénients, de développer de nouvelles formes d'emploi. Tout ce qui est l'auto-entreprise, évidemment, les multiples formes maintenant de
travaux
de
avec la technologie aussi,
exactement.
Ce qui permet effectivement...
Voilà. Et là, se posent des questions qui n'ont rien à voir avec le télétravail, mais se posent des questions de protection sociale, de protection vis-à-vis du chômage, de toutes ces personnes indépendantes qui sont socialement plutôt moins bien protégées que les salariés en CDI. Vous voyez, ça va quand même très loin.
Alors, ça va très loin. On verra évidemment comment cela se passe et comment tout cela évolue. André Viola, je vous retrouve évidemment. Vous êtes président du conseil départemental de l'Aude, signataire de cet appel avec 19 présidents président de département pour une expérimentation du revenu universel suite à ce Covid-19. Alors, on se souvient de cette proposition phare de Benoît Hamon, candidat socialiste à la dernière présidentielle. Et bien sûr, cette question, elle est diversement appréciée. Que feriez-vous si l'État vous donnait chaque mois une somme d'argent sans condition ? Quand on parle de revenu universel, il y en a que cela fait bondir. Pourquoi y allez-vous comme ça ?
Ben justement parce que Benoît Hamon effectivement avait ouvert cette discussion au moment de la présidentielle. On n'avait sûrement pas assez travaillé ce sujet, en tout cas au niveau politique ou dans le débat public. Et donc, à plusieurs présidents de département, on a dit qu'il fallait alimenter ce débat justement pour faire évoluer les esprits sur ce sujet, parce qu'on a eu des réactions assez caricaturales et où on a dit c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Et donc voilà pourquoi cette initiative. Alors nous, c'est pas le revenu universel tel que le proposait Benoît Hamon. C'est un revenu de base qui n'irait que vers les personnes qui seraient en dessous du seuil de pauvreté. Le revenu universel, lui, il est pour tous, quelle que soit sa richesse. C'est donc un filet de sécurité et de lutte contre la pauvreté dont on a besoin, je dirais, en temps normal et dont on aura, selon nous, encore plus besoin après cette crise sanitaire qui va entraîner une crise économique et sociale.
Alors, c'est là où je me tourne vers Bertrand Martineau, parce qu'il y a nombre d'arguments contre le revenu universel ou revenu de base, évidemment. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Parce que c'est vrai que c'est le bon sens. Quand on entend André Viala, ça semble une évidence même.
Alors, les économistes sont généralement ni pour ni contre, parce qu'il se trouve qu'il existe plein de formules différentes de cette formule de revenu universel. Je rappelle qu'une des, alors c'est pas la seule, mais une des premières moutures de revenu universel a été proposée par Milton Friedman, qui est donc un économiste très libéral, l'école de Chicago dans les années 60, et qui était un crédit d'impôt accordé finalement universellement et qui diminuait au fur et à mesure que les revenus augmentaient et venait ensuite en déduction de l'impôt sur le revenu. Bon, mais ce n'était pas dans un objectif particulièrement social et de filet de sécurité sociale, c'était plutôt pour une incitation à travailler. Je peux vous assurer que ce crédit d'impôt était calibré quand même assez bas. Bon, donc il y a ces formules-là. Ensuite, il y a des formules qui sont un socle universel pour tout le monde plutôt élevé. Alors on se demande là comment il est financé, plus des compléments pour des personnes en difficulté ou selon certains types. Alors ensuite, si on est sur des revenus du type qui est proposé là, on peut tout à fait imaginer ce genre de choses. Simplement, mais alors c'est plus tout à fait universel.
Ce ne sont que
les personnes socialement fragiles. Alors du coup se posent ensuite plein de problèmes qui interpellent les économistes, mais ça devient des problèmes d'ingénieurs en quelque sorte. C'est la question des transferts des uns et vers les autres, c'est-à-dire que dès que vous bougez un curseur des minima sociaux actuels pour les regrouper, pour en faire un revenu universel, forcément vous faites des gagnants et des perdants, et à ces niveaux de rémunération, c'est assez dramatique. Alors si maintenant vous voulez faire que des gagnants, ça coûte tout de suite des milliards d'euros.
C'est impossible.
Il y a d'autres sujets, juste pour terminer. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, à partir de quel âge vous le donnez ? C'est des questions à la fois économiques, mais même sociétales. Donner le revenu universel à un jeune qui a 18 ans, on peut peut-être se considérer que souvent, c'est ses parents qui peuvent...
Qui normalement peuvent l'assumer ou en tout cas l'aider.
Voilà. Donc vous voyez, comment ensuite, autre question qu'il faut regarder, c'est comment ce revenu diminue au fur et à mesure que vous reprenez de l'emploi.
De l'activité,
et
bien sûr. Alors, exactement. Alors, je vais juste redonner la parole à André Viola. Vous avez imaginé tout ça, André Viola, avec les 19 présidents de département là, qui ont rejoint votre initiative
Tout à fait. On s'est posé toutes ces questions-là. Ce n'est pas un revenu universel, nous, justement, parce que l'optique, l'entrée, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de travail et où il va y en avoir de moins en moins. Et justement, cette question des jeunes, je rebondis là-dessus, est centrale. Moi, je suis professeur d'université. On dit les jeunes de 18 à 25 ans peuvent s'en sortir. En 91, quand le RMI a été créé, peut-être aujourd'hui, même des parents qui ont les moyens n'aident pas forcément leur enfant. Et puis, il y en a qui n'ont pas les moyens et qui dorment dans des voitures parce qu'ils n'ont même pas accès à une chambre universitaire. Je crois qu'aujourd'hui, il est anormal dans la société française, c'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, que des jeunes de 18 à 25 ans n'aient pas, certains l'appellent un revenu d'autonomie, on peut l'appeler revenu de base, mais un filet de sécurité pour leur assurer des études dans les meilleures conditions,
sinon, c'est le cumul de petits boulots, de CDD, sous des enseignes que je ne citerai pas, qui précarisent et qui rendent difficile la poursuite des études. Alors oui, évidemment,
on va s'arrêter là, mais effectivement, c'est un débat qu'on pourra poursuivre, André Viola. Pour l'instant, votre appel a été reçu et même engagé avec 19 présidents de département pour cette expérimentation. On verra si vous êtes rejoints. Merci beaucoup. Merci à Bertrand Martineau également. Émilie Mazoyer, c'est à elle dans une seconde. Musique présentée donc évidemment chaque soir par Émilie et le concert du jour, celui de Kali. Et oui, c'est quand Allez, le concert de Kali, le bordel magnifique. Ça se passe sur Europe 1. Vous écoutez avec nous chaque soir Le Monde Changé de 18h à 20h. Alors rendez-vous demain, assurément. Merci de votre fidélité. Très belle soirée.
Et c'était Nathalie Lévy.
Europe 1.